La voix des jeunes face aux addictions. Une action jeunesse pour garder des bonnes ondes. Avec Info RC, cultivons des attitudes positives pour notre santé.
Une action soutenue par l'ARS, l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, la MIDECA, Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et les Conduites Addictives et l'Éducation Nationale.
Bonjour, nous sommes Juliette et
Chloé, élèves de 6e au Collège Roca.
Aujourd'hui, nous allons interviewer M. Fenouille et Mme Ferrante. Bonjour.
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 Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Bonjour, alors moi c'est Victoria Ferrante, je suis psychologue stagiaire au sein de la Ligue contre le cancer de l'Ardèche.
Et je suis Xavier Fenouille, je suis le directeur de la Ligue contre le cancer de l'Ardèche.
En quoi consiste votre travail et où travaillez-vous ?
Notre bureau est basé à Privas, puisque c'est le siège du département pour notre comité. Et on organise nos missions, on a trois, voire quatre même missions dites prioritaires. La première c'est le soutien et l'accompagnement aux personnes malades, c'est le financement à la recherche. C'est parler de prévention, parce qu'on sait qu'il y a des comportements à risque. Donc on est là pour rappeler ces comportements à risque et qui expliquent l'apparition de certains cancers. Et on a une dernière mission, c'est société et politique de santé, c'est changer le regard de la société face au cancer.
Combien avez-vous de salariés ?
Alors au sein de la Ligue contre le cancer, on va dire qu'on est quatre permanents. On a notre secrétaire comptable qui est à l'accueil, on a notre chargée de prévention, Angélique, on a une personne qui est en charge de l'accueil des personnes malades, qui s'appelle Alizée, et moi-même du coup à la direction, mais on a surtout beaucoup de bénévoles qui nous accompagnent tout au long de l'année. On a à peu près 180 bénévoles et on considère que ces bénévoles font également partie de l'équipe.
Comment a-t-on découvert que fumer était dangereux pour la santé ?
Alors, l'histoire du tabac, c'est une très longue histoire. Hein. Ça remonte à, même avant Christophe Colomb. On va dire que l'histoire écrite remonte à Christophe Colomb autour du tabac. C'est un produit dont on pensait pendant longtemps qu'il était bon pour la santé. On pensait qu'il était même assez miraculeux. On pensait qu'on pouvait soigner plein de maladies, même des maladies graves. Et puis, au fil du temps, on s'est rendu compte, avec les avancées de la médecine, que finalement, c'était pas du tout ça, voire même tout à fait le contraire, que c'était un produit qui était particulièrement toxique, particulièrement nocif pour notre organisme en général. Et on peut considérer qu'on a découvert ça plutôt autour du 18e siècle, donc il a fallu attendre très longtemps pour commencer à penser le tabac comme un produit toxique. Mais les premières vraies publications scientifiques qui ont prouvé la toxicité du tabac remonte au début du 20e siècle, donc autour des années 1900, 1900 et quelques. Donc c'est assez récent malgré tout qu'on commence à évoquer à ce moment-là la toxicité du tabac.
À votre avis, pourquoi les jeunes commencent de plus en plus à fumer ?
Alors c'est une très bonne question. Je pense que il y a sans doute l'effet de l'influence des pères. On est dans une société où tout ce qui va être soirée, on va se sentir un petit peu incité à fumer si on voit les autres fumer à l'extérieur. On voudra aller avec eux et potentiellement on commencera à fumer à ce moment-là. Il y a également tout ce qui est les réseaux sociaux, les séries, les films, où il y a de plus en plus la présence de tabac. Et donc, ça peut augmenter l'incitation à fumer.
L'influence des pères, c'est pas les pères, les papas, hein. C'est les pères, les copains, les copines, etc., ceux qui vont par pères, comme les chaussures. C'est vrai qu'on sait qu'on est très influencé par les personnes qui nous ressemblent, et c'est vrai que quand on a parfois un copain ou une copine qui a commencé de fumer, on peut être tenté soi-même de vouloir lui ressembler, de commencer à consommer.
Si nous savons que fumer est dangereux, pourquoi certaines personnes continuent ?
Le phénomène de fumer, il y a différentes formes de dépendance. Donc il y a la dépendance qui est physique et la dépendance qui est psychologique. Donc tout d'abord, la dépendance physique, ça sera quand le corps va réclamer la substance. Tandis que la dépendance psychologique, c'est plutôt quand la personne, elle pense qu'elle ne peut plus vivre sans cette substance. Et elle va continuer à consommer derrière.
Du coup, effectivement, les personnes savent que c'est mauvais pour la santé. Hein. C'est pas... La connaissance d'un risque ne permet pas la modification d'un comportement. Ça ne suffit pas, souvent, en tous les cas. C'est comme si on parlait d'activité physique. On sait tous que l'activité physique, c'est bon pour la santé. Est-ce qu'on fait tous de l'activité physique ? Malheureusement, non. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, savoir que le tabac est mauvais pour la santé, ça ne suffit pas à arrêter de fumer. Souvent, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, et notamment le fait que l'habitude, des fois, rend difficile l'arrêt. Le fait que dans le tabac, il y a un produit un peu miraculeux, entre guillemets, en tous les cas, pour ceux qui vendent du tabac, c'est la nicotine, hein, ce produit qui se fixe au niveau du cerveau et qui va donner le sentiment que c'est agréable, qu'on est content de le consommer, et qui, surtout, lorsqu'il s'absente au niveau du cerveau, lorsqu'on arrête de fumer, eh ben, provoque des effets secondaires assez forts. Les gens sont en manque, hein. Ils peuvent être irritables, énervés, pas contents. Il y a des émotions négatives très fortes et qui poussent la personne à y retourner. Et puis, effectivement, comme le disait Victoria, il y a des personnes aussi qui, sous la pression du groupe, vont continuer de consommer, ou parfois parce qu'il y a aussi quelque chose d'un peu psychologique dans le fait de consommer. Le tabac fait que ça crée tout un tas de dépendances, et de dépendances, et ne plus arriver à arrêter de consommer. Ça veut dire que ce n'est pas le sujet, ce n'est pas la personne qui a décidé qu'elle voulait continuer. Souvent, c'est le produit qui l'oblige à continuer. C'est tout ce qui fait la différence avec ce produit.
Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la Ligue contre le cancer et votre rôle ?
La Ligue contre le cancer, c'est une association. Donc, c'est l'idée d'une association, c'est réunir tout un tas de personnes qui se reconnaissent dans une idée. Et l'idée de la Ligue contre le cancer, c'était réunir un maximum de personnes qui veulent soutenir les personnes malades dans un premier temps, mais aussi faire avancer la recherche. Mais aussi, on est beaucoup maintenant, vous l'avez compris, dans l'idée de parler de prévention. On sait que le tabac, ça explique certaines maladies. Le manque d'activité physique aussi, on en parlait à l'instant, ça explique l'apparition de certaines autres maladies. On est là pour rappeler que certains comportements expliquent l'apparition de certains cancers. On va parler par exemple du soleil, même si on ne l'a pas beaucoup vu ces derniers jours. Le soleil peut expliquer l'apparition parfois de maladies comme des cancers de la peau. Il faut apprendre à changer certains de nos comportements. On ne connaît pas l'explication à tous les cancers, mais certains, on peut les expliquer. Donc pour cela, ça vaut le coup parfois d'expliquer comment on peut s'en prémunir. Et c'est notre mission.
Quels sont les bienfaits de l'arrêt du tabac sur le corps et la santé ?
L'arrêt du tabac, c'est un bénéfice relativement immédiat. Quand une personne arrête de fumer, au niveau métabolique, son cœur va ralentir, le rythme de la circulation sanguine va s'améliorer. On va retrouver au bout de quelques heures une meilleure, l'odorat, le goût, etc. Donc rapidement, on va se rendre compte. Et puis, au bout de quelques semaines, le souffle va aussi beaucoup s'améliorer. En fait, arrêter de fumer, on en a des bénéfices assez rapidement. Ce qu'il faut observer surtout, c'est quand on fume, on a rapidement des effets secondaires. Souvent, on pense que fumer, on va avoir la toxicité à long terme, ce qui n'est pas vrai. Rapidement, notre corps subit les effets du tabac. Au bout de quelques jours, quelques heures, on se rend compte que le corps déjà va réagir aux produits contenus dans le tabac. Donc, arrêter de fumer, on a la chance d'avoir un corps qui se répare assez rapidement, assez facilement. Il garde des traces du tabagisme, malheureusement. Mais malgré tout, ça vaut le coup d'arrêter de fumer, parce qu'on y est gagnant très rapidement.
Que suggérez-vous aux gens qui veulent arrêter de fumer ?
Qu'est-ce qu'on peut leur suggérer ? J'allais presque dire de ne pas se précipiter. Ça veut dire que arrêter de fumer, c'est peut-être prendre une décision, c'est changer un comportement qu'on a depuis peut-être 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, pourquoi pas, peut-être plus encore. Et donc, c'est toute une histoire. On a appris à vivre avec le tabac. Et bien, peut-être il va falloir désapprendre maintenant à fumer. Ça veut dire que fumer, ça a peut-être fait partie du quotidien de la personne, du fumeur. Et bien, progressivement, il faut se préparer à l'idée qu'on ne va plus se servir du tabac pour gérer son stress. On ne va peut-être plus se servir du tabac pour gérer ses émotions en général. On ne va peut-être plus gérer son ennui avec le tabac. Le tabac, il remplit tellement de fonctions dans la vie du fumeur que, d'un seul coup, quand on arrête, des fois, on a un sentiment de vide. Et maintenant, je vais faire quoi ? J'attends le train, je ne peux pas fumer, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai ma pause au travail, qu'est-ce que je vais faire sans tabac ? Donc ça se prépare, l'arrêt du tabac. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il existe des consultations, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais qui peuvent aider les personnes à préparer cet arrêt du tabac. Donc ça vaut le coup, en tous les cas, si moi j'ai un conseil à donner, de prendre le temps de se renseigner, de rencontrer peut-être des professionnels, en se rappelant que les consultations, elles sont gratuites. Donc on peut rencontrer des professionnels qui accompagnent ou qui renseignent. Et puis il y a un kit aussi maintenant qui est gratuit aussi, le kit Moi sans tabac, qu'on peut utiliser bien évidemment tout au long de l'année et qui donne des petites astuces, des petits trucs, mais qui marchent super bien dans l'arrêt du tabac.
Et comment peut-on les convaincre ?
Comment on peut convaincre une personne d'arrêter de fumer ? Je crois qu'il faut savoir qu'un fumeur en général n'est jamais tout à fait content de fumer. On dit qu'il est ambivalent. Ambivalent, ça veut dire que peut-être il y prend plaisir, mais à la fois, il se dit que peut-être qu'un jour, il faudra qu'il envisage d'arrêter de fumer. Alors le convaincre, c'est peut-être l'encourager en lui disant qu'il est capable, que tout le monde est capable parce qu'il y a toujours des solutions, qu'il y a plein d'alternatives, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous rencontrent en disant « Moi, j'ai essayé d'arrêter de fumer, j'ai essayé les patchs, ça ne marche pas, j'ai essayé l'hypnose, ça ne marche pas. » Et bien, peut-être que ça ne marchait pas avec vous, mais il y a d'autres solutions, on va vous en proposer d'autres, on va trouver. Il n'y a pas d'absence de solution, il y a des alternatives. On va adapter la solution à la personne, ce n'est pas l'inverse. Donc, on va accompagner durablement si besoin, mais il existe des solutions. Donc, l'idée, si je parlerai de conseils, c'est peut-être de rassurer le fumeur, lui montrer qu'il est capable et qu'il existe des solutions s'il est en difficulté pour l'accompagner et que ça marche.
Quelles sont les solutions pour les soutenir ?
Et du coup, les solutions pour le soutenir, eh bien, on en parlait à l'instant, ça peut être des consultations d'aide à l'arrêt du tabac. Ça peut être aussi prévenir ses proches. Ça veut dire qu'arrêter de fumer, ce n'est pas une aventure individuelle et personnelle, ça va impacter peut-être toute la famille. Peut-être que du coup, il n'y aura plus la post-clope à la fin du repas. La personne va peut-être plus s'absenter pendant 10-15 minutes pour sortir fumer sa clope. Ça va peut-être changer les repas de famille. Ça va peut-être changer le quotidien lorsqu'on part travailler, etc., etc. Il faut être soutenu par ses proches. Il ne faut pas vivre cette aventure seule parce que c'est une vraie aventure et que quand on vit l'aventure à plusieurs, c'est beaucoup plus sympa que quand on la vit seule. Et puis au moins, on se sent moins jugé parce qu'il y a des moments où ça sera peut-être difficile. Et peut-être que les proches, ils seront là pour dire « Allez !» Moi, je suis là, on va y arriver, on va trouver une solution. Et ça, c'est hyper important de se sentir soutenu. Donc moi, si je donnais un conseil, ça serait aux autres de soutenir et d'accompagner durablement.
Comment attrape-t-on un cancer ?
Alors, on n'attrape pas un cancer. Déjà, le terme, il est intéressant et je vous remercie de l'avoir formulé comme ça parce que c'est souvent comme ça qu'on nous le dit. Le cancer, ça ne se donne pas. Déjà, je suis prudent là-dessus. Il existe des virus qu'on peut transmettre d'un corps à l'autre et qui vont permettre l'apparition d'un cancer. Mais une personne qui a un cancer ne donnera jamais son cancer à une autre. Ça n'existe pas. On peut donner un virus qu'on porte à une autre personne, et ce virus va peut-être se transformer en cancer. Mais on n'a pas donné un cancer, on a donné un virus. Le cancer ne se donne pas. Comment est-ce que se développe le cancer ? On va plutôt dire ça comme ça, du coup. Eh bien, de ce que la science peut nous dire aujourd'hui, parce qu'on ne maîtrise pas encore tout bien là-dessus, c'est qu'on sait qu'à un moment donné, notre corps est constitué et fait d'ADN. Cet ADN va être abîmé par un comportement, je vais caricaturer, mais si on fume par exemple, on va abîmer cet ADN, ce qui constitue l'essence de nos cellules. Eh bien, parce que cet ADN a été abîmé, il va progressivement créer des cellules malades, ce qu'on appelle un cancer. C'est pareil pour le soleil. Si on s'expose trop au soleil, on va peut-être avoir une brûlure, ce qu'on appelle un coup de soleil. Et ce coup de soleil, ça va peut-être abîmer l'ADN de notre peau et ça va peut-être permettre l'apparition d'un cancer. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se protéger de ce qu'on connaît, de ce qui provoque des cancers. Il y a des cancers, malheureusement, on ne sait pas trop pourquoi ils apparaissent encore. Il y a parfois des raisons génétiques, c'est dans notre corps déjà à notre naissance. Et puis aussi, beaucoup de fois, c'est lié à ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on fume, d'ailleurs fumer en général, etc., etc. C'est se rappeler que nos comportements peuvent avoir un impact.
Est-ce que nous sommes tous porteurs du cancer, mais le déclarons-nous ?
Est-ce qu'on est tous porteurs d'un cancer ? C'est difficile à dire. Est-ce que tout corps est capable de développer un cancer ? Oui, sans doute, malheureusement. Maintenant, la question qui nous est parfois posée, c'est de savoir est-ce qu'une personne développe des cancers et les détruit par elle-même, etc., etc. C'est une vision un peu ambitieuse de notre métabolisme. Ce que l'on sait en tous les cas, c'est que tout sujet est susceptible de développer des cancers et surtout tout être vivant est susceptible de développer un cancer. On a découvert des tumeurs, donc c'est des cellules malades, sur des os de dinosaures. Ça veut dire qu'un chat, un chien, un oiseau, ce que vous voulez, un animal, peu importe, est capable et en mesure et en situation de pouvoir développer un cancer. Le cancer, c'est la maladie du vivant, en fait. Tout être vivant est susceptible de développer un cancer.
Comment accompagnez-vous les personnes qui fument ?
Alors, il y a plusieurs façons de les accompagner, les fumeurs. Déjà, il existe des consultations individuelles. Ça veut dire que les personnes peuvent prendre rendez-vous pour rencontrer des professionnels. Donc, il existe des tabacologues. À la Ligue, moi, j'en fais partie de ces tabacologues. Mais on a aussi des consultations sur Aubenas, notamment l'équipe Elsa à l'hôpital d'Aubenas. Il y a une très bonne équipe. On peut les accompagner aussi en groupe. Il existe des groupes d'aide à l'arrêt du tabac. Ça se voit beaucoup dans les lycées. On a eu fait longtemps des groupes pour les élèves internes qui sont en difficulté avec leur tabac et qui aimeraient parfois mieux contrôler ou l'arrêter. Donc on les accompagne de cette manière-là. Et ensuite, on leur propose des alternatives, c'est-à-dire des solutions qu'on pourrait leur faire pour moins fumer ou pour arrêter. Donc ça peut passer par des médicaments, ça peut passer par des techniques de psychologie, ça peut passer par des techniques de relaxation. Donc on va adapter en fonction des besoins de la personne et surtout de ses sensibilités. Il y a des gens hein, qui nous disent « moi je ne veux pas prendre des médicaments ». Bah c'est ok, bah, si on ne veut pas, il y a d'autres propositions à faire. Il y a des gens qui ne veulent pas utiliser des techniques de psychologie, thérapie cognitive et comportementale. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas sensibles à la méditation, à la sophrologie. On n'en fera pas, il n'y a pas de problème. On s'adapte en fait à la demande et à la personne.
Vu que le tabac est dangereux, pourquoi n'est-il pas interdit?
Pourquoi le tabac il n'est pas interdit? Parce que c'est un vaste sujet en fait le tabac. Le tabac c'est une vieille histoire, on l'a dit, hein, ça remonte à très longtemps. C'est une économie aussi le tabac, ça veut dire que... Il y a des gens qui vivent de ce système, parce que le tabac, ça fait partie des drogues légales en France. En France, on a deux drogues légales, il y a le tabac et l'autre, c'est l'alcool. Toutes les autres drogues sont interdites ou ont été interdites avec le temps. Aujourd'hui, interdire le tabac, c'est peut-être priver la consommation d'un produit aujourd'hui légal à des Français qui ont envie de fumer. En France, on a le droit de fumer. C'est certes mauvais pour la santé, mais les fumeurs ont le droit aujourd'hui de consommer, ils ont le droit d'en acheter. Alors on n'achète pas son tabac n'importe où, il y a des conditions. Mais aujourd'hui, c'est un produit de consommation auquel on a accès dès qu'on a 18 ans. Donc pourquoi on interdirait le tabac et pourquoi on n'interdirait pas l'alcool si on va par là? Et aujourd'hui, l'État français a fait le choix de réglementer, il réglemente de manière très sévère d'ailleurs ce tabac. On ne peut pas l'acheter n'importe où, on le paye très cher, on le consomme pas n'importe où, c'est devenu compliqué d'être fumeur aujourd'hui en France, mais on a encore le droit de fumer. C'est un choix qu'a fait l'État français. Il n'y a pas beaucoup d'États hein, qui interdisent le tabac, ça existe hein, dans le monde, hein, des États qui l'ont interdit, mais le tabac en France est un produit qui est légal, et je n'ai pas connaissance même de politique qui ait envisagé de l'interdire. Je pense qu'on considère que c'est une liberté que de pouvoir consommer.
Qu'est-ce que ça produirait si on interdisait le tabac ?
Si on interdisait le tabac, je pense qu'il y aurait beaucoup de conséquences, déjà. En France, il y a beaucoup de gens qui sont fumeurs et dépendants. Ça veut dire qu'on mettrait en grande difficulté des gens qui sont très dépendants et qui n'avaient pas prévu d'arrêter de fumer. Ça veut dire qu'il y aurait des gens qui seraient en manque, peut-être en souffrance, du coup. Donc déjà, ça produirait cela. Ça produirait un effet sur l'économie, nécessairement, parce que je l'ai dit, c'est un marché. Il y a des gens qui vivent de ça. Il y a plein de métiers autour de la production du tabac et de la vente. Qu'est-ce que ça produirait? On peut imaginer que déjà en France, il y a beaucoup de marchés noirs, de gens qui vendent du tabac sous le manteau. Vendre sous le manteau, ça veut dire qu'on a des gens qui achètent du tabac et qui le revendent plus cher. Souvent, c'est des paquets qui viennent de l'étranger. C'est du tabac qui n'est pas de bonne qualité. Souvent, alors je ne dis pas que le tabac est de bonne qualité en France, hein, mais il est encore plus toxique, ce produit qu'on fait venir de loin. Et puis, il y a des gens déjà qui importent. Il n'y a qu'à voir la frontière espagnole, il y a beaucoup de gens qui importent déjà du tabac étranger. Qu'est-ce que ça produira? On peut imaginer que ça va renforcer encore ce marché noir. Ça veut dire que des gens qui revendraient en toute illégalité du tabac, on ne sait pas ce qu'il y aurait dans ce tabac. Le tabac qu'on a aujourd'hui, je ne dis pas qu'il est de bonne qualité, c'est un tabac qui est évidemment toxique, mais on voit que dans certains paquets qu'on fait venir, parfois du Maghreb, etc., les cigarettes contiennent des résidus de plastique, des produits qui n'ont rien à faire à l'intérieur, et qui augmentent la toxicité de ce produit. C'est un produit qui est déjà tellement toxique que si en plus on l'interdisait, je crains qu'on aurait des produits encore plus mauvais sur le marché qui seraient consommés de manière illégale avec évidemment une incidence sur la santé collective et publique.
Est-ce que fumer peut tuer ?
Alors c'est une très bonne question. Alors oui, fumer ça peut tuer, donc c'est une des conséquences à long terme, même la conséquence la plus importante. Il faut savoir que la consommation de tabac, ça va pouvoir induire du coup des maladies à long terme, telles que des maladies cardiovasculaires, des cancers des voies aérodigestives supérieures, des AVC ou des cancers du poumon. Donc oui, consommer du tabac ça peut tuer. Après il faut savoir que à court terme, on a également des conséquences qui sont qui sont importantes, telles que des difficultés respiratoires, également des problèmes au niveau de la dentition.
Est-ce que les images sur les paquets de cigarettes sont réelles ?
Malheureusement, oui, ces images, elles sont réelles.
Tout le monde n'arrive pas toujours au stade de la photo, heureusement, quelque part, hein, mais malheureusement. L'objectif, quand même, des photos, c'est pour décourager, dissuader les gens de consommer. Et en psycho, on dira qu'on essaie d'augmenter la dissonance. Ça veut dire qu'on sait qu'on en parlait tout à l'heure, les fumeurs sont ambivalents, hein, ils disent qu'ils arrêteront un jour, etc. On part du principe que les personnes qui s'exposent à ces photos, à force, se disent bah, « c'est vraiment écœurant ce truc », et à force d'être écœurées, se disent qu'elles vont arrêter. On peut souffrir du tabac, comme le disait Victoria, sans avoir l'incidence qu'on voit sur le paquet. On a des personnes qui ont un épaississement des cordes vocales, vont avoir un teint gris, vont avoir des choses qui paraissent plus anodines, qui peuvent être quand même assez pénalisantes au quotidien. C'est le tabac, il est mauvais pour la santé en permanence, dès lors qu'on consomme, et durablement. Ça veut dire que si je fume une cigarette maintenant, considère que la toxicité du produit va agir encore pendant 8 heures, cette seule cigarette-là. Sauf que le fumeur, il fume à peu près toutes les 3 heures, il va fumer pendant des années, etc. Donc on augmente, on potentialise à chaque fois la toxicité du tabac. Et c'est ça le problème. C'est que plus on fume, plus on augmente le risque avec le tabac.
Donc, comment peut-on être accro aux cigarettes alors que ça sent mauvais, que ça abîme les dents et que c'est dangereux ?
En fait, au début, les personnes, quand elles consomment une substance, donc ici le tabac avec la cigarette, c'est peut-être soit pour se faire plaisir, soit pour s'amuser, se calmer ou même oublier un souci. Mais petit à petit, notre cerveau il va s'habituer et demander à revivre cette sensation agréable. Donc, qu'est-ce que vont faire les personnes ? Elles vont essayer de consommer de plus en plus pour essayer de ressentir le même effet. Et donc, c'est ce qu'on appelle la tolérance. Et quand la personne, elle essaye d'arrêter, elle peut ressentir des réactions qui sont très désagréables et qu'on appelle les symptômes de sevrage. Donc on peut avoir des maux de ventre, de l'irritabilité, des réactions d'anxiété, d'angoisse. Et c'est plus juste une envie, c'est vraiment un besoin très fort, donc presque comme une urgence intérieure. Et donc c'est difficile d'arrêter derrière.
Pourquoi, dès qu'il y a l'apparition de cigarettes dans des films ou séries, ça augmente l'âge conseillé ?
En fait, le tabac est une drogue, et ça on le rappelle pas assez souvent. Souvent quand on pense à drogue, on pense à des produits illégaux. Comme je disais tout à l'heure, il y a deux drogues légales en France, c'est le tabac et l'alcool. Pourquoi on parle de drogue ? Parce que ce sont des produits qui modifient notre fonctionnement psychique, ça veut dire qu'au niveau du cerveau, ça va avoir une incidence. C'est mauvais pour la santé. Donc c'est ça la qualification de drogue, et c'est pour ça que quand on voit des gens qui consomment au cinéma des produits qui sont considérés comme des drogues, on doit légalement montrer qu'on est vigilant et qu'on protège la jeunesse. Pourquoi ? Parce que le cinéma, l'art en général, reste une vitrine et parfois, malheureusement, aussi une publicité pour certains produits. Quand on est fan d'un joueur de foot, quand on est fan d'une chanteuse ou peu importe, et qu'on voit la personne en train d'utiliser un produit, eh ben, qu'elle veuille ou non, elle en fait un peu la publicité. On se dit, bah tiens, moi j'aime beaucoup, je sais pas qui vous pouvez aimer comme artiste, eh bien cette personne, si je la vois en train de fumer, je vais peut-être vouloir lui ressembler, je vais peut-être me dire, eh bien je vais faire comme elle. Si elle est belle, c'est peut-être parce qu'elle consomme. Lui, je le trouve intelligent ou fort en sport, c'est peut-être parce qu'il utilise tel ou tel produit. Et du coup, certains jeunes pensent utiliser le produit ou ça leur donne envie un peu plus d'utiliser ce produit-là. C'est pour ça qu'au cinéma, il y a une règle en France qui est d'augmenter l'âge de vigilance pour dire, bah, notamment aux parents, que les enfants risquent d'être exposés à la publicité ou à une idée de la société qui pourrait leur être délétère, leur être toxique.
De quoi est composée une cigarette et qu'est-ce qui est nocif ?
Une cigarette, c'est au départ du tabac quand même, on va planter le décor. Hein. Une cigarette, c'est fait d'une plante qu'on appelle le tabac. Donc c'est des brisures, on va dire, de feuilles de tabac qu'on a fait sécher. Malgré tout, si ça s'en tenait à ça, déjà ça serait pas très bon pour la santé, mais en plus on a modifié un peu la recette, on a trempé cette préparation dans d'autres produits, et lorsqu'on va fumer cette cigarette, on va créer encore de nouveaux produits. Aujourd'hui on considère que quand on prend une cigarette et qu'on l'allume, on va la brûler, on va brûler ses végétaux, on va brûler le papier qui l'entoure lorsqu'il s'agit de cigarettes, et ça va créer de nouveaux produits. On considère qu'il y en a 7000 produits. Alors, on va pas tous les citer bien évidemment, on va pas dormir ici, mais 7000 produits, c'est 7000 produits toxiques. C'est des produits dont 70 sont qualifiés cancérogènes, ça veut dire qu'ils peuvent expliquer l'apparition de cancer. 7000 produits, on va y retrouver un peu de tout, hein. On va y retrouver de la morora, on va retrouver de l'ammoniac, on va retrouver de l'acétone, c'est du dissolvant, hein, vous savez, pour tout le vernis à ongles, ce genre de trucs, on le trouve dans le quotidien, hein, ces produits-là. On va retrouver même du cacao, on peut se dire, le cacao, bah, pourquoi pas, hein, finalement. Parce que le cacao, il est rajouté dans le tabac, parce que ça permet de dilater les bronches, ça veut dire de mieux ouvrir les poumons. Ce cacao, lorsqu'il est brûlé, il devient cancérogène. Ça fait partie des produits qui peuvent être mauvais dans le tabac. Donc, tout un tas de produits qui sont mauvais pour notre santé et qui s'agglomèrent progressivement, c'est-à-dire que ça s'additionne dans notre organisme. On va mettre beaucoup de temps à l'évacuer. En plus, on considère que quand on arrête de fumer, on va mettre jusqu'à 10 ans pour évacuer tous ces produits. Donc, beaucoup de produits toxiques qu'on va stocker et qui peuvent avoir une incidence sur notre santé à court, moyen ou long terme.
Est-ce que fumer pollue ?
Alors, fumer, oui, pollue. Le tabac pollue, tout simplement, on l'a observé au travers du tabagisme passif. Je ne sais pas si vous connaissez cette terminologie. Si on fume dans une pièce, la fumée qui est la plus chargée, c'est celle qui sort de la cigarette. On va considérer que dans une cigarette qu'on fume, il y a trois courants. Premier courant, c'est celui qui sort par le filtre, celui que va respirer le fumeur, lorsqu'il y a un filtre, en tous les cas par le bout de la cigarette. Il y a un deuxième courant qui sort par l'autre bout de la cigarette, c'est le bout incandescent, celui qui est en train de fumer. D'accord ? Et puis il y a un troisième courant, celui qui est recraché par le fumeur, qui est ressoufflé plutôt, pour être précis, par le fumeur. La fumée la plus toxique, la plus polluée, c'est celle qui sort de la cigarette, celle qui est tout au bout, du bout incandescent. Là, il y a des taux de monoxyde de carbone très élevés, il y a des taux d'acétone très élevés, des taux d'ammoniac très élevés, des taux de nicotine aussi qui sont très élevés. Cette fumée qui va sortir de la cigarette, qui brûle toute seule, même si on la pose dans un cendrier, hein, le fumeur qui n'est pas en train de fumer, la cigarette fume toute seule, cette fumée, elle va flotter dans la pièce pendant 8 à 10 heures. Ça veut dire que toutes les personnes qui vont rentrer dans cette pièce vont s'intoxiquer très fortement au travers de ces produits. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, certaines personnes, parfois, peuvent développer une dépendance à cette fumée-là, alors qu'elles ne sont pas fumeuses, parce que cette fumée est très chargée aussi en nicotine. Donc oui, la cigarette est extrêmement polluante, mais elle est polluante aussi avec le mégot. Les mégots, c'est une sorte de cellulose, hein, comme du coton. Les personnes qui jettent leurs mégots dans la nature, alors parfois elles occasionnent en plus des incendies, donc on peut parler de sacrée pollution là pour la peine, mais en plus ces mégots mettent des siècles à se détériorer, donc jeter son mégot dans la nature, c'est un acte extrêmement polluant, doublement parce que ça va mettre du temps à se dégrader, mais en plus en se dégradant, les polluants qui sont contenus dans le mégot vont se répandre dans la terre, donc vont polluer durablement la terre qui aura accueilli ce mégot.
Si quelqu'un a besoin d'aide, comment peut-il vous contacter ?
Alors, les personnes peuvent nous contacter par téléphone déjà, au 04 75 64 19 19, pour avoir déjà des renseignements. Après, on peut aussi les orienter. Je parlais tout à l'heure qu'il existait des consultations d'aide à l'arrêt du tabac. En Ardèche, il y en a plusieurs. Sur Aubenas, je recite nos collègues de l'hôpital d'Aubenas, parce qu'il y a une très belle équipe. Donc, ils peuvent être contactés aussi. On communiquera dans ce cas-là leur numéro s'il y a besoin, mais on peut contacter simplement le secrétariat de l'hôpital d'Aubenas pour être accompagné et orienté. En tous les cas, nous, on a un site aussi internet. On peut nous envoyer des mails. Toutes les propositions sont bonnes. Il ne faut pas hésiter à prendre contact. On a le droit de se renseigner. Ce n'est pas parce qu'on est fumeur que quand on nous appelle, on va devenir non-fumeur. Hein. Nous, on est là pour renseigner les gens. On peut venir pour quelqu'un aussi parfois. On a parfois des papas ou des mamans qui nous appellent et qui voudraient des renseignements. On est là pour les renseigner. Donc, il ne faut pas hésiter.
Nous sommes presque arrivés à la fin de l'interview. Voulez-vous ajouter quelque chose, un conseil ?
Un conseil, je crois qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide quand ça fait plusieurs fois qu'on a essayé d'arrêter de fumer. Peut-être que c'est bien des fois de solliciter de l'aide. Ça ne veut pas dire que les personnes feront à la place. Ça veut simplement dire que parfois il manquait la petite astuce qui fera que ça se passera bien. Aujourd'hui, on peut arrêter de fumer et parfois sans trop de grosses difficultés. Donc ça vaut le coup peut-être de prendre les bons renseignements auprès de bons professionnels. Et voilà les conseils que je pourrais donner.
On termine par la question habituelle. Que pensez-vous des radios en milieu scolaire comme InfoRC ?
Alors moi, je ne connais pas beaucoup de radios en dehors de la vôtre, alors que je peux faire que des éloges de la vôtre, parce que ça fait peut-être 15 ans que je viens chez vous. Je suis toujours ravi, alors peut-être même plus. Je suis toujours ravi de venir à votre rencontre, et je suis ravi surtout que ce soit des jeunes qui nous posent des questions, et je vous félicite d'ailleurs, parce que vous avez été hyper interactive, donc bravo à vous.
Merci.
Et voilà, c'est la fin de cette interview.
Merci Monsieur Fenouille et Madame Ferrante.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
C'était Juliette et Chloé pour l'interview de Monsieur Fenouille et de Madame Ferrante.
Merci et à bientôt sur InfoRC.
la voix des jeunes face aux addictions. Une action jeunesse pour garder des bonnes ondes. Avec Info RC, cultivons des attitudes positives pour notre santé.
Une action soutenue par l'ARS, l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, la MIDECA, Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et les Conduites Addictives et l'Éducation Nationale.